Alors, en direct de Cap Canaveral à Montréal, c'est le lancement de la nouvelle saison 2019-2020 de Tam Tam Canada. Hein? C'est ça. C'est un lancement aujourd'hui. Vous êtes en forme?
Oui.
Terriblement.
Au milieu de l'été, comme ça?
Oui. On a l'impression d'être dans une fusée.
Ouais. Et vous avez l'air plus haute que d'habitude, Marie-Jobin.
Ben, c'est parce que j'ai décidé de rester debout plutôt qu'assise. Parce que j'étais inconfortable. Alors voilà, je vais essayer de ne pas trop bouger quand même.
Bon, Raymond Desmarteaux est avec nous, merci.
Bonjour.
Fantastique de vous avoir avec nous.
Bonjour.
Vous avez l'habitude, vous, des sièges qui sont durs?
Éjectables, oui.
Vous faites du vélo toute l'année? Vous faites beaucoup de vélo? Hein?
Pas toute l'année, non.
Bon, on va éviter de parler choses éjectables, c'est pas très poli, pas très agréable. Marie-Claude Simard, bonjour.
Bonjour.
On vous a vu il y a quelques minutes en direct, parce que vous faites beaucoup de direct, vous.
Tout le temps.
À la section anglaise de Radio-Canada, internationale, l'émission qui s'appelle en anglais?
The Link.
The Link. On vous a servi de la poutine?
Oui, nous avons mangé de la poutine, parce que la fin de semaine dernière, à Warwick, au Québec, on a brisé un record mondial de la plus grosse poutine du monde, plus de 3000 kilogrammes.
Ça fait des kilos, ça fait beaucoup,
oui.
Ça.
C'était une poutine extra cheese.
Oui. Très bien. Alors, écoutez, c'est fantastique. C'est un beau menu, ça, d'émission pour l'été. Nous aussi, on a quelque chose d'un peu spécial à vous proposer aujourd'hui. Avant de deviner ensemble le sujet de l'émission, parce que vous ne connaissez rien comme d'habitude, on lance un défi à la régie. Parce qu'il faut aussi les impliquer dans ce lancement d'émission. Premier défi de la régie, moi, je lis les mémos, même quand je suis en vacances, du patron. Et il a envoyé, il a dit, voici, nouvelle page qui offre nos balados aux internautes, sont en ligne, vous allez voir qu'elles sont beaucoup plus attrayantes. C'est ce qu'il dit. Hein? Il dit, voyez dans la page d'accueil sous « Abonnez-vous ». Je n'avais pas lu tout le mémo, j'ai pris du temps à voir, à savoir où ça se trouvait. Vous ne savez pas de quoi on parle? Les balados de RCI?
Oui. Ben oui, tout à fait.
Ben, quand on fait quelque chose, une entrevue, un reportage, ça s'est reproduit sous forme de balado.
Ouais.
Juste là.
Voilà. Abonnez-vous.
Ah. Abonnez-vous. On va cliquer dessus pour voir à quoi ça ressemble.
Un peu plus bas, oui, comme une petite antenne.
Puis là, qu'est-ce qu'on voit? Moi, je n'ai pas mis lunettes, alors je ne peux pas voir. Marie-Claude.
On n'a pas.
Alors, on a l'option en violet au-dessus, on Apple, podcast, ensuite Android, email, bon.
Bon, supposons qu'on est Android, on clique là-dessus, puis on voit quoi? On voit, il faut télécharger quelque chose, c'est ça?
Écoute, c'est la première fois que je vois ce menu-là, c'est nouveau quand même, cette nouvelle plateforme-là, comme ça. Ça a l'air très, très convivial.
Est-ce qu'on peut cliquer dessus pour voir ce qui se passerait?
Oui. Est-ce que ça va exploser si on clique dessus? Non,
il y a pas
évidemment.
C'est par catégorie, donc on a les chroniques, les entrevues, les émissions. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça.
Bon. Ouais. On va faire pousser l'enquête pour la semaine prochaine, d'accord? On va voir s'il y a quelque chose de dangereux dans ce nouveau service qui est offert. Mais pour le moment, on joue ensemble à la devinette. La vidéo 5 images. Je vous propose 5 images. Les gens qui nous regardent jouent au même jeu.
Mm-hmm.
Ils ne savent pas quel est le sujet d'émission. Et ensemble, 5 images, quelques secondes à peine pour deviner le thème. Vous criez dès que vous pensez être sur la bonne piste. On regarde ça ensemble. Dès que la régie daignera. Est-ce qu'on est prêt pour la vidéo 5 images? Oui, la voilà. Première image.
Le Empress, bateau.
Of Ireland.
Ouais. Qui a fait naufrage il y a bien des années, 150.
Les bateaux de croisière, donc. Le surtourisme.
Ben, écoutez, tout est lié.
Oui, OK.
Mais pas tout à fait.
Peut-être environnemental. L'effet des croisières sur ce qui se passe dans le Saint-Laurent.
Le Saint-Laurent, environnement,
pollution.
Vous êtes sur la piste. Oui, pollution. Ah, vous avez les mots-clés. Continuez.
Égout.
Oui, égout.
Ah, oui. Eau usée, bon.
Voilà. La baignade dans le Saint-Laurent, peut-être. Et
la baignade dans le Saint-Laurent. Où le fleuve Saint-Laurent est-il le plus pollué?
Oui. Okay. Et est-ce qu'on peut encore s'y baigner?
Excellente question.
C'est une bonne question pour l'été, ça.
Oui.
À certains moments, apparemment.
Et à certains endroits. Semaines,
oui, exactement.
Quand il y a des pluies, non, à cause des coliformes, et ainsi de suite. Mais il y a certains endroits où c'est possible.
Ouais. Bah, vous êtes tous des savants, vous. Hein,
non. Des baigneurs.
On va avoir un spécialiste dans quelques instants qui va, lui, vous en dire plus là-dessus. Si vous le permettez, vous connaissez la tradition. On met à l'épreuve vos connaissances générales, qui sont très profondes aussi.
Notre intelligence, c'est un test d'intelligence.
Et Raymond est toujours le meilleur.
Non.
Alors là, vraiment, il va falloir qu'on tente de le battre aujourd'hui.
Soyez humble, Raymond, vous avez une mémoire
phénoménale.
De baleine.
C'est quoi votre nom, Franck?
Alors voici première question. On affiche à l'écran la première question. Premier tour, il y a 20 boules à perdre. Dans chaque émission, il y a 100 boules à perdre au maximum. Alors voici, la longueur du fleuve Saint-Laurent est l'équivalent de la distance existant entre quelle ville? Là, vous demandez, bien sûr, mais oui, mais est-ce qu'on a un choix de réponse? Oui. Dès que ça apparaît à l'antenne, je vais vous donner le choix de réponse. Est-ce qu'on est prêt pour le petit jeu, la première boule? Oui, voilà. Est-ce que c'est la distance Paris-Rome, la longueur du fleuve Saint-Laurent? Est-ce que c'est B, Paris-Moscou? Est-ce que c'est C, Paris-Lisbonne? Ou est-ce que ce serait C, plutôt, Paris-Athènes? La longueur du fleuve Saint-Laurent est l'équivalent de la distance existant entre quelles villes? J'ai mis ça dans la géographie européenne parce que tout le monde la connaît, hein? Bon, la plupart
d'entre nous. Moi, j'hésite entre B ou D, mais bon, je vais aller avec Paris-Moscou, mais peut-être que c'est un Paris un peu trop grand.
Paris-Moscou.
Moi, je dirais C, Paris-Lisbonne.
Paris-Lisbonne. Lisbonne, c'est la capitale du
Portugal. Ah, j'y étais cet été.
C'est-tu vrai? Ah bon, c'est pour ça que j'ai choisi ce choix de réponse. Okay. Et puis D, est-ce que quelqu'un va choisir D, Raymond? Paris-Athènes.
Moi, j'hésite entre Athènes et Moscou, je dirais Athènes.
Vous diriez Athènes.
Ouais, c'est vrai que Lisbonne, c'est un
peu. Est-ce qu'on peut séparer les points au cas? Parce que moi aussi, j'avais mentionné que j'hésitais. Non, c'est une blague.
Non, c'est un choix de réponse par participant. Alors, la bonne réponse, malheureusement, pour vous tous,
c'est... Paris-Rome?
Paris-Rome!
C'est pour ben, celui-là. Voyons donc.
Ben oui. 1109 km Paris-Rome, et puis la distance, la longueur du fleuve Saint-Laurent, 1197 km.
Mais là, est-ce que le golfe est inclus là-dedans? Ou est-ce où on arrête le fleuve et où le golfe commence-t-il?
Ben, écoutez, moi, je ne suis pas un spécialiste. Je vais me tourner vers le spécialiste qui se trouve sur Skype. On va voir si lui a cette réponse. Vous allez en poser des questions à vous. Alors, notre invité aujourd'hui, notre spécialiste qui nous s'intéresse beaucoup à la question de la pollution du fleuve Saint-Laurent, de la qualité de l'eau, c'est François Guimette, professeur en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Professeur, bonjour.
Bonjour à tous.
On va situer Trois-Rivières pour ceux qui nous écoutent de l'étranger. C'est situé entre Québec et Montréal. Maintenant, situons Montréal pour les gens qui nous écoutent de l'étranger. C'est situé entre Trois-Rivières et Kingston.
Et Kingston,
c'est encore la région du fleuve Saint-Laurent, mais c'est quoi le fleuve Saint-Laurent? Où ça commence, où ça s'arrête?
Ah, c'est vrai, moi je pensais que c'était
Québec. En fait, il y a différents tronçons fleuve. Moi, je travaille principalement sur le tronçon fluvial, qu'on appelle la tronçon eau douce, qui commence, bref, à la naissance. Sa naissance prend naissance dans la sortie du lac Ontario et va parcourir comme ça la frontière américaine et canadienne jusque dans le coin de Québec. Et ensuite, on va rentrer tranquillement dans l'estuaire de Saint-Laurent, donc la zone où c'est la transition entre l'eau douce et l'eau salée, et qui va passer un bon Rimouski et tout. Ensuite, plus bas encore, on va rentrer dans le golfe de Saint-Laurent en tant que tel. Donc, l'espèce de grande ouverture qu'on voit là, sur la carte, parce qu'on regarde un peu la carte du Québec.
Et vous, quand vous enquêtez sur la qualité de l'eau le long de ce grand corridor fluvial, vous enquêtez sur toute la longueur ou sur une longueur en particulier? Vous êtes le spécialiste, je pense, québécois. Il y en a deux ou trois, mais on pourrait dire que vous êtes un des plus connus sur cette question-là. Depuis quelques années, vous faites des recherches très poussées. Où est-ce que vous accentuez, vous mettez l'accent présentement?
Oui, bon, donc peut-être rappeler aux téléspectateurs un petit peu d'histoire aussi, c'est qu'à l'EQTR, on a un navire de recherche qui s'appelle le LAMSILIS, et qui abrite deux laboratoires à l'intérieur, un laboratoire humide et un laboratoire sec. Ce qu'on veut dire humide, c'est qu'on peut traiter des échantillons d'eau, par exemple, sur le navire, dès qu'on les récolte du fleuve Saint-Laurent. Et donc, on peut faire un paquet d'analyses là-dessus. Tantôt, on parlait de coliformes fécaux pour la baignade. On mesure aussi d'autres types de polluants qu'on envoie dans les laboratoires, des équipes qui font partie des grandes missions qu'on fait sur le Saint-Laurent ici au Québec. Et le laboratoire sec, l'autre section du navire, qui nous permet, par exemple, de prendre des mesures là, avec des sondes, soit de lumière, de profondeur, de vitesse de courant, etc. Donc, c'est un peu un laboratoire, je dirais, informatique avec un paquet de sondes et de détecteurs, si vous voulez, là, d'un paquet de trucs qui se passent sur l'environnement de Saint-Laurent. Et donc, nous, on patrouille principalement la section entre les Grands Lacs et Québec. Et ensuite, il y a l'Université du Québec à Rimouski qui, elle, a un autre navire de recherche qui s'appelle le Coriolis. Et eux vont plus patrouiller, par exemple, dans l'estuaire et le golfe parce que leur bateau est plus habité à faire ce genre de navigation-là avec des grandes vagues, les marées et tout. Nous, de notre côté, notre navire, il y a une espèce de configuration comme un catamaran qui nous permet, en fait, de pouvoir aller dans des eaux très peu profondes, jusqu'à un mètre de profond seulement. Donc, ça nous aide beaucoup à se tremper le nez dans tous les petits raccoins du fleuve, là, puis de voir un peu qu'est-ce qui se passe, là, soit dans les tributaires qui rentrent dans le fleuve, soit dans les îles autour de Montréal, etc. Ouais, on a des petites images ici, exactement, du, du navire en tant que tel. Et vous voyez ici à l'intérieur, sur les images qu'on voit à l'écran, les étudiants sont au laboratoire humide, donc sont en train de traiter des échantillons d'eau qu'on vient de recueillir et qui seront ensuite, comme je disais tout à l'heure, acheminés dans les différents laboratoires qui ont leur propre spécialité au niveau des différents types de polluants qu'on suit dans le film.
Monsieur Guillemette, Maryse Jobin, je voulais vous demander comment le fait que la glace, la formation de glace dure moins longtemps sur le fleuve à cause du réchauffement climatique, comment ça affecte la pollution de l'eau?
Alors, c'est une bonne question de ce côté-là. J'ai pas un grand élément de réponse à vous donner ce matin. La seule chose que pour l'instant, on se rend compte, c'est que les algues bleu-vert, par exemple, vont avoir des blooms beaucoup plus tôt dans la saison. Donc, on s'entend que ces algues-là, ils ont touché beaucoup l'actualité au Québec il y a quelques années, bon, parce qu'on a commencé à se rendre compte qu'il y avait à certains endroits au Québec qui présentent aussi des problèmes de toxicité pour les organismes qui vivent, les poissons, même nous, l'humain, si on se baigne, par exemple, ça peut nous piquer, etc. Et donc, évidemment, si on enlève ce couvercle glacial-là de neigeux, on permet à la lumière de rentrer beaucoup plus tôt, l'eau de se réchauffer beaucoup plus tôt pendant la saison. Et là, par exemple, on peut avoir des effervescences de ce type d'algues-là, indésirables, toxiques, etc. Et un truc qu'on s'est rendu compte aussi par rapport aux algues bleu vert, c'est qu'il y a un immense lac fluvial en plein centre du fleuve Saint-Laurent, qui s'appelle le lac Saint-Pierre, et qui abrite en fait un paquet de plantes aquatiques, les macrophytes, qui servent d'habitat, par exemple, à différentes communautés de poissons, comme la perche chaude. Et tranquillement, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'avec l'apport de nutriments assez important par le milieu agricole, on a l'augmentation des fleurements et des productions de cyanobactéries qui remplacent tranquillement les macrophytes-là. Donc, on passe d'un habitat qui est comme souhaitable, disons, pour le poisson, avec un habitat qui est peut-être un peu plus détérioré, je dirais, et néfaste pour la communauté là, des organismes qui vivent dans le Saint-Laurent.
En faisant un peu de recherche en préparation à notre entrevue aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de grands titres de journaux et des fois des choses qui sont complètement aux antipodes. Vous avez, ça va très bien du côté du fleuve Saint-Laurent, les choses s'améliorent ou encore ça va très mal. Sans utiliser des mots trop compliqués, ça va comment? Comment ça va présentement dans le fleuve?
Ben, c'est tout un peu la question qu'on me pose là. Des fois, je me sens un petit peu comme Docteur Fleuve quand on me pose ça comme ça. Évidemment, je dirais disons, un petit peu à la blague. Saint-Laurent, c'est comme s'il avait pris un gros coup ou quelques grosses brosses dernièrement. Donc, il a pris, qui est un peu, en termes québécois, magané. Donc, un petit peu. Bon, il y a des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien. Et bref, il y a encore beaucoup d'espoir. Je pense que lorsqu'on se compare le fleuve Saint-Laurent avec d'autres grands fleuves dans le monde, on est quand même encore dans une bonne position. Par contre, il y a des choses qui vont moins bien dans le fleuve, surtout lorsqu'on parle, par exemple, de contaminants émergents qui ont été moins suivis dans le passé, qui ont été moins discutés au niveau politique aussi, au niveau des lois ou de réduction, etc. Donc, par exemple, un élément qui est assez important, c'est tout ce qui touche les travaux de mon collègue Sébastien Daubé à l'Université de Montréal, sur les pharmaceutiques, sur les pesticides, sur les hormones, sur les antibiotiques qu'on rejette dans l'eau. Donc, c'est des choses qui n'étaient pas nécessairement mesurées systématiquement dans le fleuve Saint-Laurent par le passé, qui commencent à l'être maintenant, en partie grâce à nos travaux. Et ce genre de choses-là, bon, ben, on ne connaît pas encore toutes les réponses à voir à quel point ça affecte les organismes, mais c'est sûr qu'on détecte beaucoup de ces substances-là maintenant dans l'eau. Et bon, il y a quand même un peu de s'inquiéter de savoir est-ce qu'effectivement ça peut avoir un impact néfaste sur la faune aquatique, sur même nous-mêmes, parce que bon, pour savoir que la moitié de la population québécoise prend son eau potable directement du fleuve. Donc, et là, pour savoir est-ce que maintenant ces substances-là peuvent se retrouver dans l'eau potable ensuite, c'est une autre question que moi, personnellement, je n'ai pas encore beaucoup touché, mais c'est peut-être un objet pour des recherches futures. Mais bon, par exemple, si on parle des pesticides utilisés en agriculture, une chose qu'on a observée, c'est qu'on la retrouve, on retrouve des pesticides dans environ l'ensemble de nos échantillons qu'on a récoltés là, entre les Grands Lacs et Québec. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la majorité des cas, on est vraiment sous les normes de santé publique actuelles. Donc, il y a des inquiétés parce qu'on les détecte, mais d'un autre côté, on doit quand même être un peu pas trop alarmiste dans ce sens-là parce que, bon, on est encore dans de très, très, très faibles quantités. Je pense
Monsieur
que
Guillemette, lorsque vous parlez de normes, est-ce qu'on parle de normes canadiennes, de
oui.
normes internationales? Comment on se compare?
De normes canadiennes. Et je dirais que l'Europe est un peu en avance sur nous. Il y a beaucoup de substances qui ont commencé à être interdites complètement d'utilisation en Europe et qui sont encore permises chez nous. Donc, moi, j'ai l'impression que dans les prochaines années, il va y avoir une question à se poser, à savoir à quel point on doit s'aligner sur des normes plus sévères, plus strictes en matière disons, de certains types de pesticides, comme l'atrazine, par exemple, comme le glyphosate, etc., qui sont principalement utilisés en agriculture intensive, là, comme le maïs, le soya, qu'on a ici dans la vallée de Saint-Laurent de manière importante, là. Pour la population, pour le bétail aussi, comme l'industrie porcine, etc. Donc, faut se poser des questions un petit peu là-dessus, savoir est-ce que, bon, maintenant, comme société, on essaie de tendre vers d'autres types de substances, peut-être un peu moins nocives, et de voir s'il y a moyen de peut-être changer quelques pratiques aussi, agricoles, etc. Donc, c'est pour les pesticides. Je n'ai pas encore les données pour les antibiotiques, mais bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'antibiotiques qui circulent présentement dans l'eau, dans le Saint-Laurent, qui ont été rejetés par les usines de traitement d'eau potable. Et pas de problème, pardon, de doser. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut se poser un peu la question maintenant, OK, on a ces antibiotiques-là qui circulent dans l'eau. Est-ce que, bon, on peut commencer à réfléchir, à savoir, est-ce qu'ils vont finir par peut-être favoriser l'émergence de super pathogènes résistants à différents types d'antibiotiques? Donc, on parle souvent en santé publique, dans les hôpitaux, l'apparition de bactéries qui sont très, très difficiles à combattre maintenant. Est-ce que de rejeter des antibiotiques non traités comme ça dans l'eau du Saint-Laurent, est-ce que ça pourrait ultimement commencer à favoriser l'émergence, encore une fois, de certaines super bactéries?
Parlons aussi d'espèces invasives. Ça s'est passé à Katrina à l'époque. Les carpes asiatiques qui ont quitté des enclos, des bassins fermés et qui ont monté le Mississippi et ainsi de suite sont rendus maintenant dans le lac Érié. Éventuellement aussi, cette espèce invasive se retrouvera naturellement dans le Saint-Laurent. Est-ce qu'on voit venir la chose?
Oui, bon, en fait, c'est mon collègue Gilbert Cabana qui travaille un peu sur le sujet en ce moment. Et rapidement, il y a 2, 3 ans, si je me souviens bien, il y a eu une carpe asiatique qui était pêchée par un pêcheur là, commercial dans le fleuve Saint-Laurent, ici, dans le coin de Montréal. Et bon, c'est un individu pour l'instant qu'on a réussi à récolter. D'un côté, donc, il y a ça. L'autre côté, il y a des collègues à l'Université Laval qui ont utilisé l'ADN environnemental pour voir est-ce qu'effectivement on trouve des traces de carpes asiatiques. Et c'était détecté un petit peu partout, à certains endroits dans le fleuve Saint-Laurent, mais on n'a pas eu de confirmation visuelle encore qui correspond à ces signalements-là par l'ADN environnemental dans le fleuve Saint-Laurent. Par contre, on appelle Bertha, l'espèce de grosse carpe qui a été capturée il y a quelques années, a été analysée par mon collègue ici à Trois-Rivières pour savoir un peu c'est quoi son déplacement ou son historique de vie dans le Saint-Laurent. Et pour le moment, les données qu'est-ce qui nous indiquent, c'est que, bref, elle est restée sur le boulevard Saint-Laurent, si vous voulez. Elle s'est pas promenée encore dans les tributaires. C'est qu'il reste une grande crainte de savoir ce que ça va remonter tranquillement dans les rivières qui sont adjacentes au Saint-Laurent. Pour le moment, il semble qu'elle ait voyagé des grands lacs là, dans la masse d'eau verte, donc l'eau vient vraiment des grands lacs qui forment le Saint-Laurent en majorité, pour le moment. Donc, c'est les seules données qu'on a à l'heure actuelle. Évidemment, on est très préoccupé par ça. On essaie d'en capturer d'autres dans le futur. On espère même en capturer avec notre propre navire. Ce n'est pas été le cas depuis 2 ans, parce qu'il faut savoir que notre navire a un grand, grand chalut de fond pour capturer beaucoup de poissons. Et pour l'instant, on n'en a pas capturé d'autres. Donc, peut-être d'un côté, c'est un bon signe parce que, bon, on se dit, on n'a pas encore capturé d'autres ou d'autres. On n'a pas vu d'autres spécimens pour l'instant. Mais d'un autre côté, on espère pas en capturer quelques-uns pour savoir un peu plus leur historique de vie. Qu'est-ce qu'il faut savoir ici, c'est que la carpe qu'on a capturée, qui était capturée, pardon, n'est pas cette carpe-là qu'on voit tout le temps sauter, sortir de l'eau, mais plutôt qui est une carpe, je dirais pas aquatique, mais qu'on ne voit pas vraiment visuellement. Donc, c'est un peu plus difficile aussi de la tracer de ce côté-là parce qu'on ne la voit pas visuellement commencer à sauter à côté des navires lorsqu'on s'en approche. La crainte qu'on a, c'est que ce type de carpe-là, qu'on appelle la carpe des roseaux, consomme une quantité astronomique de macrophytes. Et tout à l'heure, on discutait un petit peu de l'habitat de la perche honte, entre autres, et d'autres types de poissons comme le brochet dans le lac Saint-Pierre, qui est un lit de macrophytes. On peut s'attendre possiblement à ce que la carpe de rosée éventuellement atteigne cet endroit-là et commence à dévorer, si vous voulez, comme des vaches, l'ensemble du lac
Ouais.
Saint-Pierre. Donc, c'est un peu la crainte qu'on a à la
Marie-Claude.
Moi, j'ai beaucoup de questions, mais disons que je vais m'en tenir à une. Au niveau de la baignade, surtout en milieu urbain, là, les gens de plus en plus essayent de se réapproprier le fleuve. Est-ce que vous encouragez ça, vous, qu'on se baigne de plus en plus dans le fleuve? Est-ce qu'il est baignable, le fleuve, à l'heure actuelle?
C'est une très bonne question. En fait, dans mon laboratoire ici, je suis un spécialiste en microbiologie environnementale, donc je fais beaucoup de trucs avec les microbes ici, là, et leur rôle dans l'environnement. Et dans mon laboratoire, on a mesuré les comptes de colis de manière classique, là, comme ça a toujours été fait, à savoir si on ferme une plage, on la garde ouverte, etc., à la grandeur du fleuve. Il y a quelques éléments ici d'importance. La première chose, c'est que le fleuve, ce qu'on doit savoir, c'est que le fleuve a une hydrologie assez complexe. La majorité, environ 70% du débit là, à Québec, provient des Grands Lacs. Donc, le Saint-Laurent, essentiellement, c'est une rivière qui prend naissance des Grands Lacs et qui coule directement. Donc, on ne passe pas par une petite rivière qui devient une grosse rivière, mais directement, nous, on a une grosse rivière ici qui coule. Et ensuite, ajoute à ça certains autres types de tributaires ou de masses d'eau, donc la rivière de l'Outaouais, par exemple, qui occupe une autre partie importante du débit total. Et ensuite, toutes les petites tributaires qui, soit qui drainent les villes ou qui drainent les milieux agricoles de la vallée du Saint-Laurent, tranquillement, ajoutent des masses d'eau. Et ces masses d'eau-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne se mélangent pas beaucoup ou très peu sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, on peut avoir des masses d'eau de différentes couleurs, de différentes propriétés qui parcourent le Saint-Laurent côte à côte pendant des kilomètres et des kilomètres. Pourquoi je parle de ça? C'est que lorsqu'on regarde les E. coli, qui sont dans l'eau, donc cette espèce de bactéries là, qui nous indiquent la présence potentielle de différents pathogènes. Donc, il faut savoir que ce n'est pas vraiment E. coli comme tel qui est dangereuse pour la santé humaine, mais c'est les pathogènes qui viennent avec. Souvent, on met des normes basées sur des probabilités d'être malade, par exemple d'attraper un rhume, une infection à la gorge, etc., ou cutanée. Lorsqu'on mesure E. coli ici dans la fleuve Saint-Laurent, un des pics qu'on a observé, c'est dans le coin de Montréal, à la sortie, parce que bon, à Montréal, pour l'instant, on a plusieurs millions d'habitants qui vivent dans la grande région montréalaise. Sur l'île comme telle, on a pour l'instant seulement un traitement primaire des eaux usées, ce qui veut dire qu'on laisse décanter les grosses particules, si vous voulez, et le reste va continuer son parcours dans le Saint-Laurent ensuite, dans la terre de l'île aux Vaches, donc vers l'est de Montréal. Et pour l'instant, on n'a pas encore de traitement secondaire ou tertiaire, dans le sens qu'on n'ozone pas ou on met pas de chlore pour détruire les bactéries potentiellement dangereuses ou comme E. coli ou les différents pathogènes. Donc, veuillez pas, c'est sûr que lorsqu'on passe en avenir là, on a un grand pic d'E. coli là, qui, surprenamment, reste présent dans le Saint-Laurent sur des kilomètres et des kilomètres. Et pour une petite anecdote, une fois, première année qu'on a fait la première mission qu'on a faite en 2017 avec le navire, on était en plein milieu du lac Saint-Pierre et on a mesuré un pic de colis. Et on s'est demandé un petit peu, ça vient de où ça, ce pic-là? Parce que bon, ça vient d'un lac, normalement, c'est le tributaire des côtés qui peuvent apporter des colis qui viennent des grandes villes ou des milieux agricoles. Et on s'est rendu compte, à fond, est-ce que c'est vraiment nos mesures qui ne sont pas bonnes, ou etc. Donc on a fait d'autres mesures, on a finalement déterminé qu'il y avait effectivement une petite masse ou une petite section du lac Saint-Pierre qui était contaminé par E. coli. Et en reculant tranquillement la masse d'eau, on s'est rendu jusqu'à Montréal, finalement. Donc, Montréal transporte des E. coli de Montréal jusqu'à Trois-Rivières, et qui passe par les îles de Sorel-Bertie. Donc, il y a une espèce d'archipel qu'on a naturel là, dans Saint-Laurent, rentre dans en plein milieu du lac Saint-Pierre et va sur la masse d'eau verte là, centrale qui arrive des Grands Lacs jusqu'à dans le coin de Trois-Rivières, parce que l'eau est beaucoup plus mélangée, puis on perd le signal finalement de Montréal. Donc, cette section-là, évidemment, n'est pas intéressante pour les Bengans. Et ça reste encore un problème. On espère que Montréal, d'ici quelques années, normalement, devrait mettre en place un système de zonation. Donc, lorsqu'on aura ça, ça va pas mal beaucoup aider cette problématique-là qu'on a dans le club en ce moment. Okay. L'autre chose qu'on a observée aussi, c'est qu'il y a beaucoup de tributaires de Saint-Laurent qui gèrent qui drainent des terres agricoles ou des villes, qui amènent une charge de colis à l'intérieur du système. Et là, encore une fois, dû à l'hydrologie complexe du Saint-Laurent, les masses d'eau qui viennent de ces tributaires-là restent, si vous voulez, collées ou vraiment sur les rives de la rivière. Et là, donc, après ça, si on se demande où est-ce que les gens se baignent, bien, la plupart du temps, c'est sur les berges qu'on veut, on veut accéder pour aller se baigner. Donc, les plages municipales ou projetées pour le futur, bien, se trouvent sur les rives. Et donc, on a affaire à des contaminations assez systématiques. Malheureusement, sur beaucoup des rives du Saint-Laurent. Donc, dans le secteur de Contrecoeur, par exemple, qui est bordé par la masse d'eau verte, généralement, ça va assez bien parce que la masse d'eau verte, il n'y a pas de colis dedans, c'est très, très dilué, donc on ne détecte presque pas. Qu'est-ce qui est parti de la Saint-François aussi, généralement, ça va très bien. En amont de Montréal, tout ce qui est bercé, encore une fois, par les eaux vertes, on appelle les eaux vertes parce qu'il y a une couleur verte qui est garée des Grands Lacs, eux aussi sont très, très, très propres. Mais dès qu'on arrive plus passé Montréal, avec, bon, avec Longueuil, Laval, Montréal, toute la rive nord aussi qui est dans le coin d'Assomption, etc., bon, mais ça reste qu'il y a des entrées importantes de colis. Et là, ça devient beaucoup moins intéressant pour.
Ouais. Professeur, il va falloir absolument informer les bureaux de tourisme. Pour qu'ils donnent des avis importants suite à vos recherches. Je vous remercie infiniment de nous avoir donné cette image
dimensionnelle.
Oui, multidimensionnelle de ce qui se passe dans notre Saint-Laurent présentement. Puis, passez un bon été. Je sais que c'est la période chaude pour vous au niveau des recherches. Hein. C'est là où vous êtes très.
Oui, quand même. Oui, on arrive au terrain, justement. C'est pas très longtemps.
Fantastique.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Au revoir.
Alors, c'était François Guimette, professeur en sciences de l'environnement à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Nous sommes prêts pour le deuxième tour de la grosse boule. 30 boules à perdre. Vous avez déjà perdu tous 20 boules. Ouais. C'est rare que ça se produise. Voici, on vous présente cette question, toujours sous forme de petits graphiques pour vous aider à suivre ce qui se passe à l'émission. Écoutez, voici. D'abord, un petit préambule. Il y a près d'un milliard d'années, qu'est-ce qui se trouvait en lieu et place sur le site actuel de la vallée du fleuve Saint-Laurent?
On n'était pas là.
Vous n'étiez pas là. Donc, 1100 millions d'années, d'accord?
Exactement.
Pour être exact. Est-ce que ce qui se trouvait ici, c'était un vaste océan d'une profondeur rivalisant celle de l'océan Pacifique? Ou est-ce que c'était B, un gigantesque cratère creusé par l'écrasement d'une météorite ferreuse? Ou est-ce que c'était C, un plateau d'une élévation semblable à celui du Tibet actuel? Alors, vaste océan, gigantesque cratère ou plateau très élevé comparable au Tibet? Qui répond?
Moi, je vais dire A.
Ah. Moi aussi.
Vous êtes tous d'accord, vaste océan. Maryse?
Je vais aller avec la même réponse, mais là, si on coule tous ensemble.
Et, oui. Et vous coulez tous ensemble. Voici la bonne réponse.
B.
C'est pas B non
c'est
plus.
C'est C.
C'est C.
Ben voyons.
Ben oui, c'était un gigantesque, comment on appelle ça, un continent qui se trouvait ici, là. Il y a un nom précis.
Un milliard d'années.
Oui, plus d'un milliard d'années. Pas 10 000 ans. Il y a 10 000 ans, c'était...
C'était la mer de Champlain, c'est
voilà.
Ça.
Voilà. Mais avant ça, un milliard d'années, c'était... Il y avait ce supercontinent. Mmh. Et autour de ce supercontinent, très élevé en certaines parties, il y avait un océan très profond. Il y avait peut-être eu des cratères creusés par des météorites. Je n'étais pas là pour vous le dire. Et voilà.
Mais là, le Tibet, on parle de 20 000 pieds de hauteur. Ah, là.
C'est très, très élevé. Ben, 22 000 pour le K2. Donc, c'est un petit peu, peut-être un petit peu moins que ça. On parle d'un plateau, le plateau tibétain,
okay.
qui est un peu moins élevé que K1
bon,
et K2.
Ben,
d'accord? On en apprend des choses.
2-0 pour chacun.
Oui, voilà. On apprend, n'est pas très bon jusqu'à maintenant.
Donc, vous pouvez apprendre. Parfait. Et puis, nos internautes aussi peuvent apprendre grâce au défi de la régie, le deuxième défi que l'on présente cette semaine. On va aller sur le web. On est prêt pour le défi, me dit-on, avec grand plaisir, bien sûr. Alors, voici, au sujet de ce défi, on ajoute toujours à la suite de notre entretien sur Facebook ou sur YouTube, qu'on retrouve sur notre page de Tam Tam Canada, à chaque émission, différents reportages qui peuvent se rattacher un peu comme des chaloupes derrière le Titanic. Et vous apprenez davantage. Et là, je vais vous montrer ces images. On a appelé ça le dossier XXX. C'est pas parce qu'il y a des choses vilaines qui se passent, mais c'est pas des choses importantes qui
Moi,
se passent.
Moi, je changerais le nom.
Est-ce qu'on est prêt pour le défi de la régie?
Oui, Marie-Claude.
C'est déjà arrivé que quelqu'un vienne me dire, mais c'est quoi ce XXX?
Très, très large.
C'est un coup de marketing que vous vouliez faire.
Oui, oui, oui. Tous nos internautes peuvent composer l'adresse de rcinet.ca, suivi de XXX, et ils vont trouver ça.
Oh, pour le des abeilles.
Ouais. Non, ça, c'est juste pour vous mettre sur une fausse piste. Voilà. Ah, alors, on défile. Et là, il est question de... Bon, des choses qui ont tous lieu au monde maritime et des océans. Voilà. Donc, à découvrir cette semaine sur XXX. Ah, okay. Très bien. On passe à autre chose. Troisième jeu de la grosse boule. Vous avez déjà perdu 50 boules, tous et chacun, sur les 100 cette semaine.
Ah oui, c'était 30 points pour la deuxième mauvaise
réponse. Oui, oui.
20-35
ans. Ça s'aggrave.
Ça veut dire qu'on va peut-être finir à zéro, hein?
Oui,
ça serait une première.
De loin une première. Pour un lancement de saison, je vous dis que c'est pas fort. Hein. Zéro à l'examen, ça serait pas beau. Alors voici, troisième tour de la grosse boule. Hein?
Peut mieux faire.
Oui, hein, vous aviez ça vous aussi, ça vous... Ah, c'était dégoûtant. Alors voici, À partir de quelle taille? Je vous pose la question, on la montre à l'antenne également, dès qu'on a la chance de presser sur le bouton numéro 38. À partir de quelle taille un navire doit-il être conduit par un pilote local, okay, qui a reçu son diplôme, pour avancer sur le fleuve Saint-Laurent? Parce que le fleuve Saint-Laurent est très mouvementé en certaines sections. Vous le savez, il y a des rapides, il y a des écluses, il y a des, pas des excuses, mais des écluses.
Et il est moins profond à certains endroits. Donc, il faut connaître les endroits où c'est plus profond.
Puis, il y a des courants qui vont dans des directions différentes. Alors, voici. Est-ce que c'est à partir de 15 mètres que, comme capitaine, vous devez dire « on a besoin de quelqu'un à bord pour piloter » ? Est-ce que c'est B, à partir de 30 mètres? Ça, c'est 100 pieds, hein, pour ceux qui veulent avoir une référence au Québec. Ou est-ce que c'est C, 50 mètres? À partir de quel moment, légalement, vous êtes tenu de vous arrêter comme commandant de bord et dire « j'ai besoin de l'aide d'un pilote local »?
Alors, Marie-Claude?
Moi, je dirais A.
À partir de 15 mètres, donc à peu près 45 pieds.
Dès que votre un petit bateau, atteint, là, parce que c'est dangereux, le fleuve. Faut un expert avec nous, là.
Bon. Alors, 15 mètres, A, pour Marie-Claude. Raymond, qui sait
B.
tout.
B. B pour Raymond qui sait tout, il est à zéro.
Ouais, Raymond, il...
Mais là, moi, j'hésite bon entre Marie-Claude ou Raymond. Je pense que je vais aller avec B, avec Raymond.
Ouais, Raymond, c'est plus, plus fiable.
C'est plus fiable?
Ben oui, parce que...
Et bien dans le beurre aussi,
même,
hein, c'est ça?
Même il navigue, là.
C'est 50 mètres.
Eh bien, vous auriez tous raison, mais malheureusement, il n'y a qu'un gagnant aujourd'hui. C'est... Il y en a deux!
Les deux filles.
Et non, ben oui, j'ai dit vous avez dit B, c'est la bonne réponse.
Ah non, B, c'est vrai, excusez.
30 mètres, voici.
J'hésitais.
Les cinq petites étoiles le prouvent, c'est la bonne réponse.
J'ai zéro.
Vous avez zéro, c'est rare. Très rare.
C'est vrai que c'est rare.
Ouais. Écoutez, surtout... là, ce que je vais vous proposer, c'est toujours une tradition à l'émission. On finit toujours par l'image de la semaine.
Ah, okay.
Là, je vais ajouter un nota bene. Moi, pour moi, l'image de la semaine, c'est cet horrible accident sur la 440, l'autoroute, qui se trouve au nord de Montréal.
À Laval, oui.
Oui, 9 véhicules, automobiles, 2 camions, 4 morts, des histoires dans les journaux, des témoignages. Bon, écoutez, c'est horrible. C'est horrible parce que moi, je passe ma vie sur la route, évidemment, donc je me sens interpellé. Mais je me dis, pour ceux qui ne sont pas ici à Montréal ou au Québec cette semaine, quelle était donc cette image qui pouvait être l'image de la semaine? Alors voici, petite musique de pleine de tension.
Est-ce que c'était les suspects recherchés, le fameux Manhunt?
Oui, ça aurait été une très, très bonne décision éditoriale.
Mais non.
Okay. Est-ce que c'est nord-américain?
C'est nord-américain, effectivement.
Est-ce que c'est canadien?
C'est maintenant canadien, malheureusement. Ben, qu'est-ce que j'ai dit, malheureusement? C'est canadien, pour ne pas donner son opinion, là. Allez-y, continuez. Question, je réponds
contrôle
par oui,
des armes
non,
à feu?
Je pensais que vous parliez du Québec. Non, on n'est pas au Québec.
Ben, on est au Québec, maintenant, avec ça.
Ah, l'éthique!
L'éthique, ah, ça, c'est une bonne histoire. L'éthique qui apporte la maladie de Lyme. Ouais. Mais ce n'est pas ça. Ça aurait pu être un autre bon choix éditorial. Quelle est l'image de la semaine?
Un autre indice, peut-être?
Ça, en tout cas, ça avance, ça avance.
OK, est-ce que c'est une personne?
Mais ça avance sur pattes ou ça avance sur des roues?
Ça avance sur des roues.
Ah, ça avance sur des roues.
Oui.
Ah, je sais, c'est la trottinette électrique.
Ah, voilà!
Félicitations, vous gagnez les 100 boules que vous aviez perdues. On devrait même peut-être ajouter ça à l'émission comme règlement.
Oui, c'est vrai, on peut se rattraper dans ce jeu-là.
Ben oui.
Avez-vous déjà croisé des trottinettes électriques en tant que cycliste?
Pas en tant que cycliste, mais en tant que... J'ai essayé d'en louer une quand j'étais au Portugal, justement, mais j'avais un problème de Wi-Fi, mais ça m'intrigue quand même, j'aimerais ça les essayer.
Mais j'ai vu passer un reportage, apparemment, que les trottinettes électriques sont plus polluantes que prendre l'autobus. Ouais. Parce qu'elles n'auraient une durée de vie que de quelques jours. C'est ce qu'on disait.
Mais vous savez, il y a beaucoup, y a des forces industrielles qui tentent de faire en sorte que tout ce qui est électrique est mal interprété, mal accepté par les consommateurs, parce que le grand... Bon, il n'y a pas de conspiration ici, mais en tout cas, je sens que c'est un peu comme la cigarette. À l'époque, la cigarette, c'est bon pour la santé. Elle est même les médecins, la recommandent. Hein? Alors là, c'est l'inverse.
D'ailleurs, ça a été une publicité, ça, à la fin de la guerre. Tout de suite à l'après-guerre.
Les trottinettes, là.
Non, les cigarettes, la cigarette Camel recommandée par les médecins.
Ouais.
En 48-49.
Ah oui? Moi, je pense que ça, c'était en 42. Mais en tout cas, alors écoutez, c'est l'histoire de trottinette qui arrive à Montréal après être passé par Calgary. Qui
avec casque obligatoire, mais ce qui est surprenant, c'est que les cyclistes, eux, ne sont pas obligés de porter de casque. Alors là, je me demande, ça ne pourrait pas mettre l'administration plante un petit peu, avoir des problèmes avec ça.
Vous voulez dire que l'administration plante? Moi, je ne suis pas la
bonne. Non, mais je parle de notre mairesse à Montréal.
Ah, Valérie Plante, la mairesse.
Ah, tout à fait.
Nous deux, en tant que cyclistes, on porte le casque.
Ouais.
Oui, ben oui.
C'est une bonne décision.
C'est inimaginable de prendre son vélo sans son casque.
J'ai déjà été en portier une fois. Oh. Et j'ai béni mon casque. Ouais. Mes côtes, non, mais mon casque.
Ouais. Ben, en tout cas, ça va être beau à voir parce que à Calgary, j'ai entendu un reportage il y a 2 semaines, 10 jours. Ouais, les médecins.
C'est déjà là depuis le 15 juillet. Mais il y a beaucoup d'accidents.
Beaucoup de fractures, dit-on, dans les urgences, dans
et
les hôpitaux.
Eux, ils
n'avaient
pas les casques obligatoires.
Ah, c'est la grosse différence.
Alors là, c'est un essai jusqu'à début janvier, puis après, ils vont voir ce qu'ils vont faire.
Il paraît que la municipalité de Montréal pourrait faire beaucoup d'argent avec ça parce qu'elle vend la licence d'exploitation à l'entreprise.
Lyme.
Ah bon, c'est pas la maladie de Lyme dont vous parlez?
Non, ça c'est écrit L-I-M-E. Lyme, c'est L-Y-M-E, la maladie.
On peut tiquer sur la chose, mais quand même.
Ouais. Oh, c'est bien. On termine là-dessus. Fantastique, Raymond. Raymond Demarteau, Marie Jobin, Marie-Claude Simard, merci, puis à la semaine prochaine.
Au revoir.
Merci.
Au revoir. Au revoir. Bye.